Partie 2. Plus belle la vie. Art et littérature.
Dans cette partie, les arts sont les agréments de la vie, la littérature sans celle. Envisager de s'en passer revient à refuser d'utiliser les sens que la nature nous a donnés. Commençons par l'ouïe et la vue. Plongeons dans un univers de notes. Suivons les évolutions lascives ou saccadées des danseurs et danseuses. Style, technique, époque, grands interprètes, vous saurez bientôt tout sur la musique et la danse. Les yeux encore grands ouverts s'ouvrent ensuite sur les œuvres des peintres et les différentes écoles. Deux yeux suffisent à peine pour tout voir. Tous les thèmes, tous les lieux, toutes les manières de peindre s'offrent à vos regards éblouis. Êtes-vous rococo ou classique, adepte du portrait ou du paysage? Abstrait ou néo-figuratif? Vous n'en savez rien encore? Patientez quelques pages. Jouissez de l'abondance du choix et forgez votre opinion. Repus de peinture, vos sens s'éveillent à point nommé à l'architecture, l'art du beau monumental ou de détail. Palais, places fortes, églises et couvents révèlent peu à peu techniques et décors somptueux. De la grande mosquée de Cordoue aux mosaïques de Saint-Vital à Ravenne, en passant par Versailles et le centre Pompidou. Suivez le guide. Mais toutes ces visites sont bien fatigantes. Rien ne vaut le plaisir délassant d'un bon livre au coin du feu, ou en été au jardin, sous les ombrages. Un livre, oui, mais lequel? La tentation est ici trop forte, entre l'exotisme du bout du monde et la calme tranquillité des continents plus familiers. Votre petit Liré ou le Mont Palatin? À vous de choisir les pages, de l'Antiquité à nos jours, de naviguer entre les genres, romans, poésie, contes, nouvelles, et les auteurs, de Madame de Sévigné à Leclésio. Ensorcelé par la musique, ébloui de ballets, enivré de peintures, sculptures et monuments, vous êtes fin prêt pour l'extase des mots.
Chapitre 5. Un peu de douceur dans un monde de brutes. La musique et la danse. Dans ce chapitre, les grands moments de l'évolution de la musique, les principaux genres musicaux, danseurs et chorégraphes. Définir en quelques mots ce que sont la musique ou la danse s'avère impossible. Leurs frontières varient en fonction des individus, de leur culture et de leur motivation. Ce sont avant tout deux pratiques culturelles à la dimension artistique plus ou moins présente. La musique peut se résumer en une organisation voulue de sons ou de silences successifs. La danse est avant tout l'art de bouger le corps selon un espace et un temps définis. En avant la musique. Dès que cela a été possible physiologiquement, l'homme de la préhistoire a émis des sons plus ou moins harmonieux. Les instruments de musique les plus anciens apparaissent il y a 40 000 ans. Mais sans aucune trace écrite ou graphique, nous sommes confrontés à des hypothèses. Nous avons davantage de sources pour l'Antiquité. La musique est alors liée au religieux et au sacré. Au chapitre 4 de la Genèse, l'invention de l'art sonore est attribuée à Youbal. Moïse entonne un chant après la traversée de la mer Rouge, et on sait que la harpe de David pouvait calmer les fureurs de Saül. La musique dans l'Antiquité. C'est à la fois celle que nous connaissons le moins en termes d'exécution de morceaux, d'air et de rythme, et celle qui nous enchante le plus par les scènes peintes représentant des groupes de musiciens. La musique dans la Grèce antique. Les Grecs rattachent la musique non seulement au quotidien et au religieux, mais aussi à des disciplines comme les mathématiques. Pythagore, philosophe et mathématicien du VIe siècle avant Jésus-Christ, calcula le premier les intervalles entre les différentes notes d'une gamme. Outre la philosophie et les mathématiques, les mythes sont aussi une bonne source de renseignements. Les Romains l'associent plus volontiers aux jeux et autres divertissements. La musique est alors essentiellement homophone, formée d'une unique ligne mélodique. Les premiers morceaux de musique accompagnent généralement des poèmes, poètes et musiciens étant une seule et même personne. La tradition est riche en mythes où interviennent les instruments de musique. Orphée, avec sa lyre chantante, fut certainement le musicien le plus célèbre de la mythologie grecque. Il descendit aux enfers pour sauver son épouse Eurydice. Ému par sa musique, Pluton et Perséphone lui accordèrent la grâce qu'il demandait à condition qu'il ne se retourne pas un instant sur le chemin du retour. Mais, impatient de voir à nouveau son épouse, Orphée regarda Eurydice avant d'avoir franchi les limites de l'au-delà, la perdant à tout jamais. La flûte du dieu Pan est composée de tubes de différentes tonalités dont l'extrémité est bouchée, reliée entre eux. Faite à partir de divers matériaux, bambou, bois et argile, elle prend en Roumanie le nom de Naï, en Grèce de Syrinx et dans les Andes de Yupana. Essayant d'échapper à l'amour du dieu Pan, la nymphe Syrinx fut transformée en bouquet de roseaux, ce qui permit à Pan de fabriquer ses flûtes. Apollon, dieu archer, maître de la lyre, de la divination, de la musique et de la poésie, protecteur des muses, donna la lyre aux hommes et fut leur mécène. Sur l'Olympe, sa lyre d'or divertissait les dieux. Le chant byzantin. La musique byzantine puise aux sources hébraïques et syriennes et non aux sources grecques antiques. On la définit en général comme la musique grecque orthodoxe de la période comprise entre le VIe et le XVIe siècle. Le rite byzantin ne subit plus depuis le IXe siècle aucun changement. C'est pourquoi Glinka, Tchaïkovski, Moussorgski, Rachmaninov et même Stravinsky mêlent le chant d'église aux mélodies populaires russes. La ferveur religieuse y rejoint souvent l'exaltation patriotique, le chant byzantin devenant russe orthodoxe. La musique médiévale. Sur les 1000 ans de la période médiévale, de 476 à 1492 environ, la musique et ses usages connaissent une mutation profonde. Art sacré, destiné par la pureté des voix, assimilée à celle des anges, à glorifier Dieu, elle devient délassement profane à la cour impériale de Charlemagne et de ses successeurs, puis divertissement populaire. Le premier fédérateur de la musique occidentale a été le pape Grégoire Ier, qui l'a unifié et codifié vers 600. Cela a donné naissance au chant grégorien ou plein chant. Parallèlement à ce courant religieux, un art poétique et musical s'est développé dans la société civile féodale vers 1100. Poèmes épiques et chants d'amour sont alors colportés par des chanteurs ambulants.
Le saviez-vous ? Le chant de Grégoire. Le fondateur de la musique occidentale a été le pape Grégoire Ier, vers 600. Il a commencé de codifier et d'unifier le rituel liturgique en Occident. Cela donnera le chant grégorien, ou plein chant, chant sacré, d'une seule ligne mélodique, interprétée par un chœur de voix masculine et sans instrument, c'est-à-dire a cappella. Au XIe siècle, les prémices du solfège apparaissent. Les progrès de la notation musicale permettent une meilleure circulation des œuvres, souvent confinées jusqu'ici à un seul monastère ou à une seule église.
Quand les Carolingiens chantaient. Le renouveau musical de l'époque carolingienne est dû à l'unification des liturgies sur le modèle romain voulu par Charlemagne. Les premières chapelles à se doter d'écoles de musique et de chant sont celles d'Aix et de Tours. Le chant choral se développe lors des offices, à la fin du IXe siècle, dans l'abbaye normande de Jumièges, sous la forme de chœurs alternés d'hommes et d'enfants. Les exigences des chants liturgiques donnent naissance à des notations dites échymotiques. Les notes sont alors indiquées par des accents. Le défaut est l'absence de hauteur précise de ton. L'organum. Les plus anciennes mentions de l'organum se rencontrent chez les écrivains du IXe siècle. Le moine d'Angoulême, Jean Scott d'Erigène, 800-876, ou à Hugbold, 850-930, moine de Saint-Amand. Il s'agit d'une forme primitive de l'harmonie consistant en une succession réglée d'octaves, de quintes et de quartes, exécutée par le chœur des voix d'hommes et d'enfants. Au XIIe siècle, le déchant, forme rudimentaire d'harmonie à deux voix, culmine dans les grandes compositions de l'école de Notre-Dame de Paris. Ars Antiqua et Nova. Ars Antiqua désigne la musique médiévale française de 1230 à 1320 environ. Ars Nova s'applique à toute la production musicale du XIVe siècle, tant française qu'italienne. Les nouveautés apportées durant cette époque concernent essentiellement la notation et la rythmique. Les notes sont pleines ou évidées, rouges ou noires, afin d'améliorer la lecture de leur durée.
Le saviez-vous ? Tambour major. Le tambour est une caisse cylindrique, faite de bois le plus souvent, dont chaque extrémité est fermée par une membrane tendue. Sous la membrane inférieure sont tendues deux cordes de boyau, de façon à toucher dans toute l'étendue de son diamètre la membrane. Lorsque, sous le choc des baguettes, la membrane du dessus entre en vibration, celle du dessous produit un nombre double de vibrations. Celle qui est soumise à la vibration est en général plus mince que l'autre. Il faut attendre la fin du Moyen Âge pour que le tambour fasse son apparition en France. Il fait partie des orchestres symphoniques depuis le XVIIIe siècle.
La musique de la Renaissance. Les successeurs de Guillaume Dufay, compositeur franco-flamand du XVe siècle, maître de chapelle à la cour de Savoie, améliorent l'expressivité et délaissent un peu la théorie. Ils équilibrent le contrepoint et l'harmonie. Ce sont les motets, compositions musicales à une ou plusieurs voix, qui permettent de donner la pleine mesure de l'inspiration. L'art du chant et l'harmonie se développent beaucoup durant cette période, l'écriture devient plus claire et plus précise, et le texte un élément important de l'œuvre. La polyphonie est poussée à son extrême. Trois événements majeurs vont influer la musique. Le retour des arts vers les modèles de l'Antiquité, un essor économique sans précédent, notamment en Belgique et en Hollande, où la musique est constamment présente, et la réforme protestante qui permet le développement des chants pour les fidèles. La première Renaissance. De 1480 à 1520, les instruments sont surtout utilisés dans la musique profane et dans la danse. Le luth se répand en Italie, puis en France, l'orgue en Allemagne. Les principaux auteurs sont Josquin des Prés, Antoine Brumel, Pierre Delarue, Loiset-Compère, Jacob Aubrecht. L'apparition de l'imprimerie à la fin du XVIe siècle accélère la diffusion de la musique. La seconde Renaissance. De 1520 à 1550 se développent les écoles de Paris et de la Loire. La chanson polyphonique française s'inscrit en réaction contre le sérieux du style flamand. Elle est notamment portée par les musiciens catholiques, dont le chef de file est Roland de Lassus, auteur du XVIe siècle de plus de 2000 compositions, dont 100 motets. Parallèlement, la chanson populaire évolue vers une forme plus élaborée, le madrigal. En Allemagne, la réforme donne un nouvel élan à l'art musical avec Luther. 1483-1546. Passionné de musique sous toutes ses formes et compositeur de chants religieux. La musique baroque, XVIIe et XVIIIe siècle. L'âge baroque, né avec les débuts de l'opéra en Italie et en Allemagne, se termine avec la symphonie classique, grossièrement entre 1700 et 1750. Au cours de cette période, naissent de nouveaux genres comme l'oratorio, drame lyrique sur un sujet religieux, la cantate, chant à un ou à plusieurs avec accompagnement, la suite, composition musicale de plusieurs morceaux de même tonalité, ou la sonate, alternance de mouvements lents et rapides. Après une longue période de polyphonie, s'impose la monodie, chant à une voix soutenue par une basse instrumentale, luth, clavecin, appelée basse continue. Réforme et contre-réforme accordent une place de plus en plus grande au chant au cours des offices. L'oratorio en Italie, le motet en France, la cantate dans les pays germaniques. Le concert se modifie par la création de nouveaux instruments, notamment le violon et le clavecin, ancêtres du pianoforte, tandis que les grands compositeurs révèlent leur talent grâce à un instrument privilégié, l'orgue. La musique, déjà présente dans le type aristocratique d'éducation, devient l'affaire de professionnels, souvent au service d'un grand ou vivant de commande. En Italie, le 1er février 1598, Daphné de Jacopo Peri est considéré comme le premier ancêtre de l'opéra de l'histoire, car les récitatifs, parties récitées déjà bien connues, y alternent avec des parties chantées ou à demi-chantées. À la fin du XVIIe siècle, l'influence de la musique italienne en Europe commence à décroître. L'opéra napolitain conserve son ascendant sous la direction d'Alessandro Scarlatti. Et pour lutter contre la paralysie de l'opéra traditionnel qui servait de prétexte aux exploits des virtuoses locaux, Jean-Baptiste Pergolèse introduit l'opéra bouffe au début du XVIIIe siècle sur le modèle de la Commedia dell'arte qui exerça une grande influence sur le spectacle musical européen. L'opéra reste jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle le premier des genres musicaux italiens. Arcangelo Corelli est le grand créateur des sonates, qu'il divise en quatre mouvements successifs. Largo, Allegro, Adagio, Vivace. À la fin du XVIIe siècle, les sonates les plus en vogue sont celles composées pour le clavecin. Claudio Monteverdi, maître de chapelle à l'église Saint-Marc de Venise de 1613 à 1643, est le premier à opposer les voix humaines aux instruments pour obtenir un lyrisme dramatique. La composition, a cappella, est enrichie d'un accompagnement instrumental. Alessandro Scarlatti, maître de la chapelle royale de Naples, met en place l'aria da capo et l'ouverture en trois mouvements. L'aria da capo, ou air de tête, est la pièce d'un chanteur, morceau de bravoure qui ouvre l'opéra. Antonio Vivaldi domine le concerto, œuvre d'une certaine ampleur pour instruments et voix. Le concerto grosso, qui oppose tous les instruments, cède peu à peu la place à l'opposition de la flûte et du violon, puis du piano au reste de l'orchestre, au long de trois mouvements, rapide, lent et rapide.
Le saviez-vous ? Au violon. Ses ancêtres remontent au IXe siècle. Mais le violon tel qu'on le connaît apparaît dans le premier tiers du XVIe siècle. Un nom de facteur, c'est-à-dire de créateur, est associé au violon. Celui d'Antonio Stradivari, créateur des prestigieux instruments appelés Stradivarius. Le violon est un instrument à cordes frottées par un archet, fine baguette d'une dimension de 75 cm environ. Le plus ancien fabricant est l'Italien Gasparo da Salo. C'est réellement au milieu du XVIIIe siècle qu'il devient l'un des instruments solistes les plus populaires de la musique. On le retrouve aussi bien dans la musique de chambre ou les concertos que les symphonies. Il est aussi très présent dans les différentes musiques folkloriques d'Europe centrale.
En France, Jean-Baptiste Lully est nommé en 1653 compositeur de la cour de Louis XIV et devient le grand maître de l'art lyrique en France avec l'aide de son librettiste Quinault. L'orchestre sous sa direction prend une place importante dans les comédies-ballets comme Le Bourgeois Gentilhomme. Marc-Antoine Charpentier, dont les compositions sont très en vogue à Versailles, François Couperin et Emmanuel Delalande sont les autres représentants de cette époque. En Allemagne, la période baroque, fin XVIe, début XVIIe siècle, est dominée par deux noms. Heinrich Schütz, maître de chapelle à Dresde, s'inspire de Monteverdi et de Giovanni Palestrina. Il choisit ses textes dans la traduction donnée par Luther de la Bible et consacre une part importante de son œuvre à la musique sacrée, funèbre ou psaume. Il est l'auteur du premier opéra allemand, Daphné. Johann Sebastian Bach est le maître de la cantate, pièce chantée qui désigne une composition monodique, d'inspiration profane aussi bien que sacrée, pour une ou plusieurs voix, avec accompagnement au début de basses continues, puis une instrumentation de plus en plus riche.
N'oubliez pas, le cas Bach. Né le 21 mars 1685, à Eisenach en Thuringe, Johann Sebastian Bach est le huitième enfant d'une famille de musiciens. Sa vie est placée sous le triple signe de la famille, de la religion et du service du pouvoir princier ou municipal. Maître de chapelle à Weimar, organiste de la cour de Léopold Anhalt-Köthen, de 1717 à 1723, il est ensuite nommé cantor, c'est-à-dire maître de chapelle, de Leipzig. Grâce à son talent, l'orchestre va acquérir une force d'expression jusqu'alors réservée aux compositions vocales.
En Angleterre, Henry Purcell est un musicien complet. Organiste de l'abbaye royale de Westminster et à partir de 1683, compositeur et claveciniste de la cour. Il compose dans le goût baroque les plus grands opéras anglais, King Arthur, The Tempest et des pièces de circonstance, Music for Queen Mary. Il faut mentionner aussi Jörg Friedrich Händel, compositeur d'origine allemande.